très bien, merci. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour aborder un sujet, j'irai à la fois bien connu, mais peut-être pas si connu que ça, hein, qui touche en tout cas tout le monde, et en particulier bien évidemment les femmes, mais qui intéresse aussi les hommes, à savoir alcool et grossesse. Comme vous le savez, il y a eu de nombreuses campagne en ces dernières années sur ce sujet-là, mais il nous a semblé que, justement, il était peut-être utile de profiter de cette journée internationale, justement, du syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est aujourd'hui, hein, pour pouvoir réfléchir de nouveau à ces sujets-là, et nous le ferons tous les ans, hein, à travers une formation autour de comment aborder les problèmes d'alcool chez les femmes enceintes en particulier, hein, organisé par le XAPA-CIPAT que vous connaissez, et on essaiera de faire ça tous les ans à cette date-là. Voilà, alors ce soir, on a l'honneur d'accueillir avec nous Michel Berthier, mon vieux camarade depuis longues années, voilà, hein, qui est pédiatre au CHU et qui travaille avec nous à l'unité Mère Bébé, qui a vu des milliers de femmes,
plus que ça.
Des dizaines de milliers de femmes, centaines de milliers, peut-être pas, voilà.
Et il y a plus de 2000 naissances par an, ne serait-ce qu'à la maternité.
Voilà. Ouais. Et donc Madame Ballard, qui est sage-femme protection maternelle infantile. Voilà, et moi-même, donc Jean-Yves Chavagnat, je suis psychiatre d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Et j'ai ici deux casquettes, là, à la fois donc, la responsabilité de l'unité mère-bébé avec Michel, et puis aussi la responsabilité du centre de soins, d'accueil, de prévention, d'addictologie, hein, et le CIPAT, voilà, et du réseau Alcool 86. Voilà, donc deux unités qui, à certains moments, travaillent en complémentarité autour de ces problèmes d'addiction et en particulier d'alcool. Voilà. Alors, la soirée va se dérouler de la manière suivante. Donc, le docteur Michel Berthier va vous faire une présentation, j'irai plus centrée sur les retentissements physiques, sur un plan plus général, et la clinique. Pour ma part, je vous proposerai plutôt une réflexion et des recommandations, comment faire, quoi dire, pas dire, voilà, ce qui permettra déjà d'amorcer aussi le débat. Et ensuite, notre collègue sage-femme de PMI vous dira un peu ce qu'il en est sur le terrain, ses difficultés, les choses qui sont possibles, d'autres qui sont plus difficiles. Et enfin, dans une dernière partie, nous pourrons échanger autour de ces sujets-là. Voilà, merci, bonne soirée. Donc à toi, Michel.
Bien, bonsoir. Et donc, je vais tout d'abord vous parler très rapidement de l'historique, c'est intéressant, hein, puis on rentrera dans le vif du sujet. Sur la forme, au cours de l'exposé, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'approfondisse, ou s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu obscures, hein, vous pouvez intervenir, me couper, me demander, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Alors, sur le plan historique, ça fait très longtemps que le lien entre l'alcool et le fœtus et le nouveau-né a été établi, et en particulier le lien délétère. Hein, donc, il y a eu, on trouve des écrits chez les Grecs, on trouve des écrits très anciens, et on a également dans la littérature, vous connaissez donc les écrits du roman social du 19e siècle, où on voit des générations comme ça, on parlait d'alcoolisme héréditaire. Mais sur le plan scientifique stricto sensu, en fait, il faut attendre une période extrêmement récente, hein, puisque la première publication, en fait, elle vient d'ici. Elle a été dans l'Ouest médical. Hein, donc c'est un pédiatre de Brest qui s'appelle Lemoine et qui a publié dans l'Ouest médical en 1968 une série de 127 cas qui a été suivie pendant très longtemps, puisque plus de 30 ans après, on a retrouvé 77, j'y reviendrai tout à l'heure, de ces personnes, et c'est lui qui a décrit le syndrome de l'alcoolisme fœtal que je préciserai tout à l'heure et qui n'a pas évolué. À la suite de ça, personne n'a, au moins dans le dans le monde et dans le Landerneau pédiatrique et scientifique n'a vraiment eu connaissance de ses écrits. Et puis, il a fallu attendre 1973. En 1973, au niveau des grandes revues donc américaines, il y a eu des écrits, un écrit donc de Smith et Jones, donc qui ont redécrit, qui ont redécouvert ce syndrome et qui l'ont à ce moment-là, ils se le sont approprié. Alors après, il y a eu un débat sur le fait que c'était effectivement le syndrome de Lemoine et non pas le syndrome de Smith ou de Jones. Enfin, peu importe. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez récent. Alors. Qu'est-ce qu'observaient donc ces gens ? Et après, on va revenir sur les raisons hein, de ces anomalies qu'on observe chez les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont observé ? Deux choses. Ils ont observé tout d'abord des dysmorphies, hein, qu'on reprendra, donc des anomalies au niveau du visage assez importantes, hein, que je redécrirai, des malformations diverses, hein, cardiaques, osseuses, urogénitales, etc. Et surtout, des problèmes de développement, avec des retards, des troubles du comportement extrêmement importants et des retards intellectuels très, très importants. Alors, on les décrira, on les reprendra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pourquoi ces problèmes ? On le sait actuellement, hein, ça vient du fait que, quand durant la grossesse, hein, l'alcool va avoir très, très rapidement, dès le début de la grossesse, une action au niveau cérébral, au niveau neurologique. C'est-à-dire que le fœtus va absorber l'alcool, si je puis dire, hein, être capable ensuite d'avoir donc, une circulation. Il a un foie qui est relativement immature, hein, donc il va y avoir aussi donc une présence plus prolongée. Et puis au niveau cérébral, à ce moment-là, il va y avoir des altérations. Ces altérations, elles sont très variables, hein, selon qu'on a des alcoolisations aiguës en début de grossesse, des alcoolisations chroniques tout le long de la grossesse, avec des niveaux d'alcoolisation plus ou moins importants. Hein, elles sont également variables selon les sujets. Hein, on sait que pour des raisons assez compliquées, qui tiennent à des variations d'activité enzymatique, avec des caractéristiques génétiques, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Hein, on l'a vu en particulier chez les jumeaux qui sont des faux jumeaux, donc, où certains, avec bien sûr les mêmes quantités, puisque c'est des jumeaux, d'alcool vont avoir des altérations très importantes et d'autres pas. Donc, vous voyez, il y a aussi une injustice à ce niveau. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, l'alcool va avoir une action directement sur le neurone. Il va y avoir donc, des altérations des neurones. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que vous savez que très tôt, hein, pendant la gestation, avant 20 semaines, l'ensemble des neurones sont présents, ils sont au centre du cerveau, hein, et puis ils vont ensuite aller... migrer hein, pour constituer les couches du cortex, pour constituer tout un ensemble d'éléments hein, très importants pour la vie relationnelle future et également donc, pour le développement neurologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'alcool va provoquer des modifications de migration, ce qu'on appelle dans notre jargon des hétérotopies. Hein, et donc, ces neurones vont migrer un petit peu, au petit bonheur la chance, et vont aller à des endroits où ils ne devraient pas aller, hein, ce qui va ultérieurement poser des problèmes, d'une part, et puis d'autre part, il va également y avoir des anomalies hein, sur la myélinisation. C'est que la myélinisation, c'est les gaines hein, qui sont autour des expansions nerveuses et qui vont permettre donc la transmission de l'information. Et à ce moment-là, il va y avoir également des altérations à ce niveau. Il y a de plus des modifications vasculaires. Hein, ça donne des phénomènes de constriction des vaisseaux, de vasoconstriction, hein, qui vont aussi hein, donner tout un ensemble de problèmes. Donc sur le plan de l'action, on sait comment ça fonctionne. Hein, on l'a fait expérimentalement chez des souris, ça a été fait chez des rats, ça a été fait chez d'autres animaux hein, qu'on a gentiment comme ça imprégné pendant la grossesse hein, d'alcool hein, et pour lesquels on a sacrifié les fœtus et on a observé un petit peu ce qui se passait. Donc on sait comment ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la naissance, enfin, déjà, pendant la grossesse, hein, puisqu'on peut même à l'échographie quelquefois voir les anomalies. À la naissance, on va se retrouver face, soit, hein, vous aviez des affiches qui sont d'ailleurs très bien faites devant, soit avec un SAF, ce que l'on appelle SAF, syndrome d'alcoolisme fœtal, hein, soit avec des enfants qui sont moins imprégnés, qui ont des expositions à l'alcool durant la vie fœtale, EAF, hein, mais qui ont aussi des anomalies. Alors après, on les classe comme on veut, mais toujours est-il, hein, il y a des formes qui sont plus sévères, d'autres qui sont moins sévères. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Sur le plan morphologique, vous allez avoir au niveau de la face hein, des anomalies qui sont très caractéristiques. Les principales, vous avez une encellure nasale qui est très très marquée. Vous avez au niveau de au niveau oculaire, souvent vous avez ce qu'on appelle des blepharophimosis, c'est-à-dire que des fentes qui sont relativement étroites, d'ailleurs dans tous les sens, avec des microphtalmies, souvent des yeux qui sont de petite taille. Vous avez également donc des narines qui ont tendance à être rétroversées, qui sont un petit peu relevées. Et puis au niveau de la lèvre supérieure, une lèvre qui est très longue, avec un philtrum qui est bombé. Et puis toute cette partie qui est centrale est peu marquée. C'est-à-dire que les deux piliers sont assez peu marqués, souvent dans les formes extrêmes, donc c'est complètement lisse. Il y a plus ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Et donc un aspect qui est assez bizarre avec cette forme. Et puis un menton qui est un petit peu en retrait. Donc on voit, je ne sais pas si ça marche encore, mais peu importe, je peux m'en passer. On voit tout un ensemble. Alors après, il y a des malformations. Ça, c'est la forme générale, avec souvent une microcéphalie, donc puisque il y a cette atteinte au niveau cérébral qui fait que généralement il y a un périmètre crânien qui est plus petit que la normale, donc pour le terme. Et donc cet aspect est très caractéristique. On le voit, là j'ai des photos qu'on pourra faire circuler, je crois qu'il y en a devant. C'est très caractéristique donc de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisme fœtal. Va s'y associer des malformations, alors qu'elles sont plus ou moins fréquemment présentes. Dans le SAF, elles sont présentes à plus de 40%. Elles peuvent être cardiaques, alors il y a tout type. Vous avez des communications interventriculaires entre les deux ventricules. Vous êtes essentiellement des professionnels, je crois. Non, il y a... Oui ou non, parce que du fait... Non. Donc il y a des communications entre au niveau cardiaque, entre les ventricules. Après, vous avez des communications entre les oreillettes. Vous pouvez avoir des malformations un peu plus complexes, qu'on appelle... Bon, c'est un terme aussi dans le langage populaire qui est connu, la tétralogie de Fallot, par exemple, toutes sortes d'anomalies. Des anomalies osseuses, des anomalies au niveau des reins. Enfin, il y a tout un ensemble d'anomalies, de malformations qui peuvent être présentes et qui sont donc associés à la présence de l'alcool. Alors, ce bébé, c'est un bébé qui, en général, de toute manière, est petit. Donc, il a une hypotrophie, donc il est plus petit que ne voudrait le terme. C'est-à-dire que s'il est à terme, un bébé pèse habituellement 3,3 kg, il va faire moins de 3 kg ou 2,5 kg. Ou à l'extrême, on voit des enfants qui font 1,5 kg, voire 1 kg à terme. On a vu des formes qui sont... dans des imprégnations extrêmement, extrêmement importantes, donc des enfants qui sont très petits et donc qui ont ces anomalies. Alors, ça, c'est la forme donc avec le syndrome d'alcoolisme fœtal. Dans l'exposition, on peut tout à fait avoir également des enfants qui ont une présentation à peu près normale, avec des dysmorphies qui sont très modérées, qui ont ou qui n'ont pas de malformations, mais qui... ultérieurement vont avoir des anomalies de développement. On voit des enfants qui vont, au fil du temps, et on va se rendre compte qu'il y a un retard de développement, que ce soit sur le plan neuromoteur, psychomoteur, sur le plan cognitif, sur le plan cognitif, et des enfants qui, bien sûr, seront en grande difficulté dans les apprentissages. Je reviens donc à la série de Lemoine, c'est celle qui a été suivi le plus longtemps, puisque plus de 30 ans après, on a retrouvé 77 de ces 127 cas qui avaient été décrits au début. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très important d'avoir pu les suivre très longtemps. Ils étaient tous en institution, sauf 4 qui... Il y en a 4 qui avaient des relations à peu près normales. Donc, ils avaient tous des caractéristiques physiques particulières, puisqu'ils les avaient sélectionnées, c'était des formes assez, assez sévères. Et donc... des gens qui n'avaient pas pu avoir d'autonomie, qui étaient donc institutionnalisés et qui étaient en très grande difficulté. Donc ces difficultés, elles vont être variables selon le niveau d'imprégnation. Alors ce qui est important à savoir, c'est que tout n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'on sait, il y a eu des travaux, en particulier il y a une équipe à Roubaix qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. On s'aperçoit que quand on prend ces enfants précocement en charge, eh bien, on peut quand même avoir des améliorations. On a quand on les prend en charge avec des soins du développement, dans des CESAD, dans des CAMS, dans des instituts qui sont spécialisés pour les soins du développement, eh bien, on a quand même des possibilités d'avoir une amélioration. Ceci étant, hein, des enfants qui ont eu des imprégnations importantes pendant la grossesse, qui ont des manifestations neuropsychiques, hein, non pas, même avec des soins de développement, hein, des développements qui sont les mêmes, hein, que des enfants qui n'auraient pas été imprégnés. Alors, sur le plan statistique, dans la littérature, vous voyez un petit peu tout et l'inverse. Alors ça va être sur le nombre de cas. Bon, ça va dépendre aussi, hein, de l'intérêt que portent les équipes. Par exemple, l'équipe de Roubaix, hein, a fait un énorme travail sur ce sujet, Lille, Roubaix, Tourcoing. Donc ils ont travaillé avec Dehaene, avec Odile Crème, qui a travaillé aussi avec. Enfin, il y a toute une équipe très complète. Et ils ont retrouvé un cas pour 200 naissances. Est-ce qu'il y a un peu plus d'alcoolisme là-bas, ou pas forcément d'alcoolisme, mais d'imprégnation, hein, puisque on voit déjà des anomalies à partir de 2-3 verres, hein, pour les gens les plus vulnérables, 4 ou 5 par jour, hein, donc des gens qui n'ont pas l'apparence, hein, de gens qui sont alcooliques, comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de troubles du comportement forcément, qui peuvent travailler, qui sont insérés, etc., hein, mais qui ont des enfants, hein, qui vont avoir des problèmes. Des problèmes et des troubles du développement. Donc la fréquence, elle va varier. On considère en France actuellement, il y a une sorte de consensus pour dire qu'on est entre 1 et 3 pour 1000. Hein, donc, alors, ça paraît pas beaucoup, mais vous savez qu'il y a un peu plus de 800 000 naissances par an. 1 pour 1000, ça fait 800. 2 pour 1000, ça fait 1600. 3 pour 1000, 2400. Vous voyez, c'est quand même des chiffres, et c'est tous les ans. Si bien que dans tous les pays, l'alcoolisme fœtal, ou on peut prendre, utiliser ce terme, hein, qui regroupe à la fois l'EAF et le SAF, hein, représente la première cause de retard intellectuel non génétique. Hein, donc c'est plus fréquent que la trisomie 21, par exemple. Hein, donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée quand même de l'importance de ce problème. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je terminerai par une chose, c'est que en France, on a vraiment eu énormément de mal de prendre la mesure, hein, de ce phénomène. Et il faut savoir que c'est seulement en 2004, hein, qu'il y a eu des textes qui ont été présentés. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir donc comment ça s'est passé, hein, à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu un texte qui avait été présenté, hein, par une députée de La Réunion qui s'appelle Madame Payet. Elle avait présenté un texte où les gens étaient un peu surpris, le texte est passé. Hein, et puis, immédiatement, il y a eu le lobby alcoolier, on peut l'appeler comme ça, qui est intervenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, très rapidement, alors que c'était passé au Parlement, c'est-à-dire donc à la Chambre des députés, au Sénat, il y a eu une deuxième mouture qui a été présentée, tenez-vous bien, par le professeur Mattei en 2004. Le professeur Mattei, qui était à l'époque, qui était à la fois donc ministre de la Santé, qui était pédiatre, généticien, et qui a réussi à faire passer un texte pour supprimer donc le texte qui avait été présenté par Mme Payet et qui obligeait donc de mettre des étiquetages sur les bouteilles d'alcool. Et c'est seulement un peu plus tard qu'un autre ministre de la Santé, c'est Douste Blasi, il s'est trouvé qu'il était médecin aussi, mais cardiologue de formation, hein, s'est rendu compte de l'énormité de cette affaire, hein, est revenu en arrière et a représenté un texte, hein, pour imposer donc l'étiquetage. Alors, en même temps, avant de partir, j'ai regardé chez moi, parce que j'ai aussi des bouteilles d'apéro et du vin, donc, j'ai regardé les étiquetages, et je peux vous dire que les étiquetages, ils sont mais minuscules. Regardez, par exemple, j'avais une bouteille de label rouge, hein, de whisky, vous avez un gros truc label rouge, vous regardez derrière, et vous avez un tout petit truc, mais c'est vraiment microscopique, hein, vous avez le petit rond avec la femme enceinte, et encore aujourd'hui, hein, ces étiquetages, ils sont ridicules. C'est, on peut pas, autant sur les paquets de cigarettes, vous avez vu, bon, fumez-tu, là, il n'y a pas photo, hein, c'est marqué dessus. Autant sur l'alcool, il y a un vrai problème. Hein, et puis, il y a une tendance actuellement en France, hein, de vouloir faire une différence entre le bon alcool français qu'est le vin et puis le mauvais alcool étranger qu'est l'alcool fort. Hein, donc... Et donc une espèce de jeu qui n'est pas très sain, hein, d'autant plus que, hein, le fait de faire un étiquetage, c'est simplement indiquer qu'on ne doit pas prendre d'alcool pendant la grossesse. Hein, il ne s'agit pas de prohiber le fait de boire du vin normalement, modérément, dans un contexte normal. Hein, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais c'est vrai que pendant la grossesse, hein, compte tenu du fait qu'on ne sait pas quelle est la dose qui peut être délétère, actuellement, ce qui est vraiment préconisé, c'est le zéro alcool. C'est le zéro alcool parce qu'on ne peut pas démontrer qu'une petite quantité d'alcool n'est pas délétère. Donc actuellement, le discours qu'il faut tenir, je crois que surtout sur les professionnels, il ne faut pas transiger en disant « ouais, mais bon, je crois qu'il faut rester sur ce registre. Pendant la grossesse, on ne boit pas d'alcool parce que c'est dangereux. Hein. » On s'abstient. Et c'est d'autant plus important que quand vous discutez avec des femmes enceintes, vous apercevez que beaucoup de femmes enceintes qui boivent de l'alcool sans avoir de dépendance, sans avoir de difficultés ou de problèmes particuliers avec l'alcool, si elles sont bien informées, n'en boivent pas du tout durant la grossesse et ça ne les gêne pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir suffisamment d'informations parce que en supposant qu'une jeune femme enceinte qui n'a pas de problème avec l'alcool, mais bon, on fait une fête en début de grossesse, et prend une quantité d'alcool excessive, une seule quantité d'alcool excessive durant la grossesse, peut avoir des conséquences qui sont vraiment préjudiciables. Et c'est un peu dommage que l'information passe mal, je dirais pas passe pas, parce qu'elle passe, mais actuellement, elle ne passe pas encore suffisamment. On a vraiment des difficultés, autant le tabac, bon, c'est facile d'en parler, autant l'alcool, ça reste encore quelque chose qui n'est pas simple à évoquer durant la grossesse. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je ne vais pas être trop long, et puis on fera le débat tout à l'heure, si vous aviez des questions pour prolonger ce que je vous ai dit. Merci.
Voilà, donc je vais continuer avec le même état d'esprit qu'on a déjà mis en avant tout à l'heure sur ce sujet et vous rappeler, je dirais, quelques points et vous suggérer peut-être quelques idées pour appréhender ce sujet, notamment comment pouvoir parler du problème d'alcool. À travers donc la représentation de la femme moderne et de l'alcool, la femme avant et maintenant, la femme alcoolique et son bébé. Comment faire pour ouvrir le dialogue? Comment mettre en place un entretien? Quelle prévention? Quel accompagnement? Et quelques mots de conclusion. Alors, l'histoire de l'alcool, on vous l'a dit, elle existe depuis très longtemps. Mais sans aller trop loin, revenons sur quelques images qui montraient bien que le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons, disait Pasteur. C'est pas tout à fait n'importe qui. On conseillait bien sûr aux femmes de boire du vin pour éviter l'anémie, de la bière pour les montées de lait, en référence donc à l'éthylothérapie, au vin hygiénique et thérapeutique. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Belles images en couleur cette fois-ci, où dans l'entre-deux-guerres, la France traditionnelle vend ses produits viticoles. Buvez du vin et vivez joyeux. Vin de France, santé, gaieté, espérance. Voilà, donc quand même. Sur fond de bleu, blanc, rouge. La constitution de représentation des croyances est notamment centrée sur la bière, qui est donc nourrissante. Et puis entre ces deux nourrices, c'est sûr que je préfère celle de gauche, souriante, le verre de bière à la main, le téton en l'air, le bébé heureux et celle de droite déprimée, le sein bas, l'enfant pleurant, il n'y a pas photo. Voilà, on choisit tout de suite celle de gauche. Et puis peut-être de manière plus récente, les enfants peuvent être aussi utilisés comme... propagandiste de certaines marques. Vous en voyez une ici. Alors, nous ne résistons pas devant la présentation de ce magnifique garçon que tout le monde connaît hein, avec une photo merveilleuse de Doisneau, hein, où ce petit garçon est très heureux de ramener ses 2 litres à son père, sûrement, peut-être à sa mère aussi. Hein, voilà. Alors, maintenant, revoyons un petit peu qu'est-ce qui peut sous-tendre ces problèmes d'alcool chez les femmes. Ainsi, l'alcoolisme, bon, dit secondaire, donc, a des difficultés psychologiques, est certainement plus fréquent chez la femme. Et on peut retrouver très succinctement, hein, ici présenté, des problèmes d'anxiété, de dépression, de troubles des conduites alimentaires et des troubles de la personnalité. Ici, l'alcool, hein, qui est un produit qui agit sur le cerveau et qu'on appelle donc un produit psychotrope, hein, fait figure d'automédication. Mais ce n'est pas une bonne médication. Hein, si on veut prendre une bonne médication, à ce moment-là, c'est peut-être l'indication de médicaments, hein, qui sont susceptibles d'être donnés à une femme enceinte, pas n'importe lesquels, bien sûr, mais c'est certainement possible, alors que le médicament alcool est un très mauvais médicament. De plus, la femme, bon, qui s'alcoolise souvent seule, en dissimulant à son entourage, est en proie à de forts sentiments de culpabilité et vit souvent ceci de manière très négative et a beaucoup de mal à pouvoir en parler. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la dénégation, la dissimulation, et un peu le corollaire étant la honte qui l'accompagne. La consommation d'alcool, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, reste encore valorisée et souvent associée à la fête. Mais peut-on faire la fête sans boire d'alcool? Peut-être que oui. Et la tolérance des femmes vis-à-vis donc de cet alcool semble bien sûr plus grande qu'auparavant. La tolérance zéro commence à être admise lorsque nous conduisons un véhicule, mais elle n'est pas encore admise et acquise pour les femmes enceintes. Et pourtant, elles ont en elles un être en devenir, et c'est aussi très important. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'occupe également d'une unité d'hospitalisation mère-bébé où on reçoit donc des mères avec leurs enfants, mères souvent présentant des dépressions plus ou moins sévères et parfois d'autres soucis, et également parfois des mères qui ont plusieurs problématiques, et notamment une problématique alcool en particulier. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de son histoire. Nous rencontrerons pour la première fois Christiane en fin de grossesse avec donc la psychologue. Elle est dans une demande d'aide. En effet, ce premier bébé n'a pas été souhaité, mais finalement, elle l'a pris comme un cadeau, dit-elle, qui peut-être lui permettra de grandir. La grossesse a été mouvementée. Elle a fait une tentative de suicide suite à de violentes disputes avec son ami, le père de son enfant, avec qui elle entretient des relations très ambivalentes. Elle ne nous cachera pas ses problèmes anciens avec l'alcool. Son ami présente aussi un éthylisme. Son histoire est jalonnée d'événements traumatiques. Placement à l'âge de 1 an suite à l'éthylisme de sa mère. Changement de nourrice à 2 ans pour rejoindre son frère. Spectatrice de la tentative de suicide de son frère à 10 ans alors qu'elle avait 8 ans. Rencontre unique et désastreuse avec sa mère biologique au même âge. Et conflits majeurs avec sa nourrice qui aboutiront à un placement en foyer à l'âge de 15 ans. C'est certainement pendant son adolescence qu'elle commence à s'alcooliser. Dès la naissance de Christine, elle est hospitalisée à l'unité mère-bébé. À son arrivée, Christine a 1 semaine. C'est un bébé qui paraît calme, bien éveillé. À l'examen, elle montrera toutes ses compétences. Cette petite fille, capable d'attention, suit un objet, présente une bonne maturité, peut soutenir une interaction avec l'adulte et peut récupérer quand elle est fatiguée. Elle a de bonnes capacités d'autoconsolation et se laisse aussi apaiser par le tiers, par l'intermédiaire de sa voix ou de ses bercements. C'est un nourrisson qui paraît en bonne santé. 1 mois après son arrivée, Christine s'est désorganisée. Donc, le bébé, elle a une apparence souffreteuse, son visage est soucieux et son front est plissé. Au plan moteur, elle est hypertonique et les gestes sont saccadés. Elle est hyper attentive à son environnement, mais ne peut se laisser aller au plaisir de la relation. Elle dort peu et pleure beaucoup. Elle n'a pu trouver un rythme veille-sommeil adéquat. Que s'est-il passé? Christine est en miroir de sa mère et en grande souffrance. Celle-ci fait d'immenses efforts pour répondre aux besoins de sa fille, mais elle n'y arrive pas. Elle se dévalorise sans cesse, ne mérite pas l'aide qu'on lui apporte, ni ce bébé, dit-elle. Elle doute de ses capacités maternelles, s'interroge sur ce qu'est une mère. C'est quoi être une mère ? Comment aimer un bébé ? Nous demande-t-elle. Elle cherche des clés qu'elle ne trouve pas. « Je n'ai pas eu de modèle, » dit-elle. Les pleurs sont insupportables pour elle, la tétée la met mal à l'aise, partagée entre son désir de prendre le temps et d'en finir au plus vite. Le manque d'alcool devient patent. À certains moments, elle se montre adaptée, pertinente, joueuse avec sa fille, et à d'autres, celle-ci la plonge dans une souffrance ou le manque affectif. La blessure de l'absence d'une mère ne fait que raviver le manque d'alcool. Christine ne sait jamais à quelle mère elle va être confrontée et ne peut en fin de compte que compter sur ses propres capacités qui s'épuiseront si elles ne sont pas alimentées par d'autres. Parfois, cet enfant sert de doudou à sa mère, de réconfort. À d'autres moments, elle devient persécutrice pour elle. Sa mère est alors imprévisible. Celle-ci ne peut différer son besoin de la prendre ou de la faire dormir selon son état psychique du moment. Christine doit répondre à ses besoins dans l'immédiateté. Christiane et sa fille Christine sont restées plusieurs mois à l'unité mère-bébé et le séjour a été l'image de cette relation. De bonnes et de moins bonnes périodes se sont succédées. Nous avons fait intervenir nos collègues du CIPAT, entre autres, et nous avons pu maintenir un cadre qui a permis cette dyade d'évoluer. De réels liens d'attachement ont pu se créer entre la mère et la fille, en trouvant progressivement une distance nécessaire à la construction psychique de ce nourrisson. Christine a commencé à exister pour elle-même grâce à l'étayage contenant donné à sa maman. À la question donc sur la spécificité de la relation entre une mère alcoolique et son bébé, nous pouvons poser quelques hypothèses pour tenter d'y répondre. Tout d'abord, il n'y a pas de profil de mère alcoolique, mais des mères présentant une problématique personnelle à laquelle elles essayent de répondre, en outre, par l'alcool, d'où l'importance de chercher le sens de la prise d'alcool pour les accompagner au mieux. Nous savons combien la maternité bouscule, ravive d'anciennes blessures, nous bouleverse émotionnellement et nous confronte à de nouvelles frustrations, ce qui fragilisera d'autant plus ces mères. Nous pouvons en revanche mettre en évidence quelques caractéristiques communes. Tout d'abord, l'existence de traumatismes dans le passé de ces femmes, et elles sont traumatismes très divers. Hein. La difficulté à construire des liens d'attachement sécurs et à reconnaître leur enfant comme un être différencié avec ses besoins propres. Le risque majeur est qu'elle crée un lien de dépendance si fort qu'elle ne pourra pas devenir un individu autonome. Alors, voyons quelles sont les bonnes raisons pour ouvrir le dialogue. Alors, tout d'abord, les symptômes d'une consommation d'alcool à risque ne sont pas toujours visibles. Hein, en particulier à l'examen clinique, on l'a vu, ça peut être des personnes tout à fait, entre guillemets, ordinaires. Alors, ni à l'examen clinique, biologique ou échographique. Alors, ne pas en parler, c'est bien sûr prendre le risque de passer à côté. Cela concerne toutes les femmes, quelle que soit leur origine socio-économique ou culturelle. Et on voit bien que soit les femmes de milieux socio-économiques élevés ou celles de milieux socio-économiques plus bas peuvent être touchées. Mais c'est tabou, les femmes n'en parlent pas. Il est rare qu'elles abordent spontanément leur consommation d'alcool en consultation. Donner l'information, c'est offrir la chance à la femme de réfléchir à ce qui est bon pour elle et bon pour son enfant. Nous disons qu'il n'est jamais trop tard. L'arrêt de l'alcool, à n'importe quel moment de la grossesse, entraîne l'arrêt de ses méfaits sur le fœtus. C'est rapide et efficace. Cela ne demande pas plus de temps que l'information sur le tabac, le sommeil, l'alimentation et un impact réel sur la diminution, voire l'arrêt de la consommation d'alcool. Mais le problème, c'est là, il faut aborder ce sujet. Et pourtant, c'est bien sûr de notre responsabilité professionnelle de proposer une démarche d'information et un accompagnement personnalisé aux femmes présentant donc des conduites d'alcoolisation excessive. Plus on en parle systématiquement, plus on est à l'aise en cas de situation problématique. C'est bien sûr donc une première étape pour aider les femmes les plus à risque et leur proposer un accompagnement pour elles et leur enfant. Donc l'entretien est la méthode qui nous paraît la plus efficace pour la prévention de l'alcoolisation fœtale. Et nous précisons que plus le professionnel en parle systématiquement, plus il est à l'aise pour évoquer ce sujet, plus la patiente est en confiance pour en parler, et enfin, bien sûr, plus l'enfant a une chance de se développer au mieux. Mais bien sûr, il existe des difficultés dans l'accompagnement et dans cette prévention, notamment les résistances des femmes enceintes en difficulté avec l'alcool, on l'a vu, la honte, la culpabilité, le déni ou la dénégation, la crainte de l'intervention des services sociaux, mais aussi la méconnaissance des professionnels de santé, du champ social, les difficultés des professionnels à évoquer la problématique avec les femmes, avec les familles, les difficultés orientées vers les lieux de soins ad hoc, lorsque cela s'avère nécessaire. Et ceci nécessite bien sûr la formation des professionnels aux facteurs donc de compréhension psychologique qui sous-tendent les conduites d'alcoolisation. Alors comment aborder cette question ? Tout d'abord en entretien individuel. Il existe de nombreux moments où on est en contact avec les femmes. Tout d'abord les consultations pour la contraception, les consultations de suivi précoce de grossesse, consultations du quatrième mois, qui va être une consultation, un moment phare. Lors d'une première consultation médicale, au même titre que les autres données, lors de l'achat d'un test de grossesse, d'un bilan sanguin. Les entretiens avec les femmes dépendantes de l'alcool, cette fois-ci en consultation, en sevrage, et qui peuvent avoir des enfants. En animation de groupe, bien sûr, lors des séances de préparation à l'accouchement. Les animations de prévention dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les centres de PMI, les centres d'hébergement, etc. Tout au long de l'année ou lors de la journée internationale de prévention de l'alcoolisation fœtale, comme aujourd'hui, 9 septembre de chaque année. Donc, les conditions nécessaires pour ouvrir le dialogue, eh bien, il s'agit de construire une alliance entre donc nous et la patiente basée sur quoi ? D'abord, une approche globale de la vie de la femme. S'intéresser, bien sûr, sur son déroulement de sa vie, mais en particulier ici, sur le déroulement de sa grossesse, la vie du couple, de son entourage, plutôt qu'à la seule santé de son enfant. La femme et l'enfant sont indissociables. Une empathie avec une absence de jugement, une écoute personnalisée de la patiente pour une mise en confiance, un cadre rassurant et discret à la consultation, une attitude de conseil et de responsabilisation sur l'intérêt d'un arrêt ou en cas d'impossibilité d'une réduction, la disponibilité de notre part, mais il faut aussi faire entrer l'alcool comme un thème naturel lors de nos échanges et en particulier dans la consultation. Votre patiente s'étonnera moins de votre question si des affiches, des dépliants sont par exemple proposés dans la salle d'attente au même titre que les autres sur des préventions d'autres natures, bien évidemment, et si vous précisez bien sûr que ceci est pour toutes les femmes. Il faut savoir explorer ce que sait la patiente sur l'alcool et la grossesse, son point de vue sur la question. Par exemple, que savez-vous des conséquences de la consommation d'alcool pendant la grossesse ? Que pensez-vous de la recommandation zéro alcool pendant la grossesse, diffusée depuis plusieurs années ? Et bien sûr, éviter de... Alors, vous buvez de l'alcool ? Pas d'alcool et de tabac, n'est-ce pas ? Bien sûr. Avancer vers l'information. Pour une patiente, il peut être difficile de poser des questions sur l'alcool et la grossesse, d'où l'importance d'avoir donc l'initiative. Quatre informations nous paraissent fondamentales, notamment l'alcool traverse le placenta. Deuxièmement, il est potentiellement toxique pour les cellules neurologiques, on l'a déjà vu, et peut entraîner des retards de croissance, malformations, difficultés d'apprentissage, troubles du comportement. Troisièmement, les effets de l'alcool sur le fœtus sont dose dépendants. Quatrièmement, c'est au regard des connaissances scientifiques actuelles qu'il est désormais vivement recommandé de ne pas consommer d'alcool pendant la grossesse. Il s'agit là d'un principe de précaution. Docteur Michel Berthier vous a bien expliqué qu'il existait des variations individuelles, bien sûr, mais il est certainement préférable de pouvoir aller dans ce sens-là. Alors n'oublions pas qu'il y a donc un après, l'accouchement, et l'alcool, y compris la bière, passe dans le lait maternel Et ces informations sont bien sûr, là aussi, à préciser. Alors, il est bien sûr, à ce moment-là, fondamental de faire le point sur la consommation d'alcool et d'intégrer la question de l'alcool dans celle du mode de vie. Le sommeil, l'activité physique, médicaments, etc., et tout le reste. Plutôt que de parler d'alcool, il peut être aussi intéressant de parler de choses plus précises, de vin, de bière, de champagne, de, etc. Plutôt que de dire, est-ce que vous prenez de l'alcool ? Parce que de l'alcool, tout de suite, ça évoque les boissons peut-être fortement alcoolisées. Et une femme buvant, par exemple, du vin en quantité X, va dire, non, je ne bois pas d'alcool, par exemple. Préférez les questions qualitatives sur la relation à l'alcool aux questions quantitatives. Pensez-vous que vous consommez de l'alcool par plaisir, par habitude, parce que ça vous aide dans les moments difficiles ? Voilà, par exemple. Il est utile d'essayer de susciter un changement. Pour ça, il faut bien sûr que nous soyons convaincants. Donc, il faut faire passer un certain message et aider les femmes à s'exprimer. Avoir une attitude bienveillante de conseil et mettre en évidence parfois certaines contradictions. Renforcer la confiance et le sentiment de libre choix. C'est la patiente qui est donc actrice de son changement de comportement. Aider donc cette femme à trouver des solutions alternatives et impliquer l'entourage. Au quotidien, les occasions de consommer de l'alcool sont nombreuses. À l'annonce du bébé, tous les mois, toutes les semaines, etc. Les fêtes de famille, les repas avec amis, etc. Donc l'arrêt de la consommation suppose pour la femme de changer ses habitudes. Et pour beaucoup, ce n'est pas difficile. C'est ce que disait Michel. Et c'est bien dommage de ne pas pouvoir le faire. Si l'attente d'un enfant est souvent une motivation suffisante, il convient donc de soutenir et de valoriser ses efforts pour préserver sa santé et celle de son enfant. Exemple, encourager la consommation de boissons riches en vitamines, en sels minéraux, proposer des recettes de cocktails de fruits frais, par exemple, solliciter le soutien de l'entourage, et ça c'est très important, et le respect de la décision d'abstinence. Les explications données à la femme enceinte, par exemple, ou à la femme en général, devraient aussi être entendues par son conjoint, et peut-être même plus largement par son entourage et sa famille. Alors il existe des outils de repérage, ceci en est un, où on va poser un certain nombre de questions et on va scorer. Voilà. Par exemple, combien devez-vous consommer d'alcool pour sentir l'effet de l'alcool ? Les gens vous ont-ils déjà agacé en critiquant votre consommation d'alcool ? Avez-vous déjà eu l'impression que vous devriez réduire votre consommation d'alcool ? Vous est-il arrivé de prendre un verre en vous levant pour calmer vos nerfs ou vous débarrasser d'une gueule de bois ? Voilà, par exemple. Alors si, dans des cas plus rares, mais non exceptionnels, vous avez repéré une situation de dépendance, souvent la patiente rencontre des difficultés pour aborder sa problématique de dépendance et envisager un arrêt des consommations. Alors, son comportement ne signifie pas pour autant un désintérêt pour la vie et la santé de l'enfant. Elle consomme de l'alcool pour faire face à ses difficultés et non dans l'intention de mettre en danger son enfant. Et on a vu à plusieurs reprises des femmes, cette fois-ci dépendantes, qui limitaient beaucoup leur consommation d'alcool pendant leur grossesse et qui pouvaient même de temps en temps s'arrêter quelques jours, voire une semaine ou deux. En réalité, les sentiments de culpabilité et de honte sont souvent, bien sûr, très présents. L'accompagnement de la patiente est rendu difficile car deux rythmes se confrontent, à court terme et à moyen terme. À court terme, c'est le temps de la grossesse, avec l'urgence d'arrêter la consommation tout de suite pour préserver l'enfant. Et le moyen terme, c'est la demande d'aide pour une femme qui souffre de sa consommation d'alcool et a besoin de temps pour envisager une abstinence. Il est essentiel donc d'être à son écoute et de l'aider à mettre des mots sur le rôle, la place, la fréquence de sa consommation. Exemple, quelles sont les bonnes choses et les moins bonnes choses associées à l'alcool ? Ou bien encore, quelles sont ses attentes, ses craintes quant à un arrêt ou une réduction de la consommation ? Les copines vont se moquer de moi, etc., ou d'autres choses, ou ma famille, c'est pas acceptable de ne pas prendre de l'alcool, etc. La grossesse peut être un moment propice aussi à la prise de conscience du problème alcool. Encore une fois, il n'est jamais trop tard pour intervenir. L'arrêt d'alcool à n'importe quel moment de la grossesse a un impact positif sur le développement de l'enfant, En parler, c'est également prévenir le risque, donc, pour les grossesses futures. Il y a bien sûr la grossesse en cours, mais il y a aussi celles qui vont venir. Des atouts dans le suivi donc, des patientes dépendantes de l'alcool, c'est bien sûr avoir confiance dans la réussite de la patiente, et on doit donner de l'énergie à cette patiente. Tenir un discours positif sur ses capacités à changer. Respecter le cheminement de la patiente. Éviter une confrontation en cherchant à faire avouer la dépendance. Soutenir sans culpabiliser, y compris si l'abstinence ne peut être obtenue. Un accompagnement de proximité est surtout pluridisciplinaire et fondamental, puisque la problématique alcool ne peut être isolée des autres difficultés sociales, médicales, affectives de la patiente et de son entourage. Si le syndrome d'alcoolisation fœtale est avant tout un diagnostic pédiatrique, la problématique alcool est médico-sociale ou médico-psychosociale. Il convient de proposer à la patiente un soutien individualisé basé sur des consultations prénatales plus longues, plus fréquentes, une disponibilité pour des consultations en urgence, par exemple, en raison parfois des absences, des retards constatés, des examens non réalisés par la patiente. Un suivi échographique rapproché par le gynécologue obstétricien ou la sage-femme, par exemple pour dépister des malformations ou un retard de croissance intra-utérin, on en a parlé tout à l'heure. Une orientation vers le dispositif addictologique en cas de dépendance. La patiente doit bénéficier donc de ce suivi médical spécifique et un accès en urgence à des soins ambulatoires ou hospitaliers, par exemple en alcoolologie. Accompagner la patiente dans ses démarches vers l'alcoolologie, prise de rendez-vous, présence de l'alcoologue, par exemple lors d'une consultation prénatale, hospitalisation en maternité, etc. Une articulation du suivi avec les professionnels issus de la protection maternelle infantile, de l'aide sociale à l'enfance parfois, du service social de l'hôpital, du médecin traitant, du réseau de périnatalité, etc. Un suivi pédiatrique rapproché avant et après la naissance, notamment pour une consultation anténatale, un suivi en néonatologie, parfois une orientation vers les CAPS, les centres d'action médico-sociale précoce, dont a parlé le docteur Berthier. Pour mieux accompagner les patientes à risque, la prévention de l'alcoolisation fœtale doit s'intégrer dans les priorités habituelles du service chargé du suivi de grossesse. Et cela passe par prendre en compte la problématique alcool au même titre que les autres conduites addictives, le tabac et les drogues illicites, dans les suivis individualisés et les réunions interservices, repérer systématiquement la consommation d'alcool pendant la grossesse, créer des protocoles de soins en cas d'alcoolisation aiguë ou régulière de la patiente, de syndrome de sevrage chez le nouveau-né, mieux connaître les services locaux d'addictologie et en définir les modalités de collaboration, participer à un travail de réseau basé sur un échange de pratiques et une réflexion sur les situations problématiques avec tous les professionnels chargés du suivi de la grossesse et de la prise en charge de jeunes enfants. Traditionnellement, la prévention, nous allons la découper en prévention primaire avec l'information, la formation spécialisée des professionnels de santé, de l'éducation, du champ social, l'information du grand public, c'est ce que nous essayons de faire ce soir. La prévention secondaire est plus centrée sur les conditions d'une alliance thérapeutique avec les femmes en difficulté avec l'alcool, connaître les ressources locales en termes d'accompagnement de ces problématiques. Alors vous voyez le petit logo dont vous parlez le docteur Berthier à droite, qui est un peu plus grand, ici, voilà, que vous avez aussi sur la table, je pense. Voilà, vous pouvez en emmener chez vous. Voilà. Ce sont ces campagnes d'information après la loi de 2004, qui devaient prévenir le syndrome d'alcoolisation fœtale. Une information au collège et lycée sur les risques sanitaires liés à la consommation d'alcool au cours de la grossesse. La formation des professionnels de santé et du secteur médico-social, bien sûr, sur les effets de l'alcool sur le fœtus. Mais également des messages sur les carnets de santé, le pictogramme qu'on vient de voir sur toutes les unités de boissons alcoolisées, mise en place par l'Institut de veille sanitaire d'un dispositif épidémiologique de surveillance appuyé sur les maternités, et puis les messages préventifs. Une abstinence totale est conseillée donc aux femmes pendant toute la durée de la grossesse. Une dose minimum d'alcoolisation sans conséquence n'étant pas définie, on ne sait pas si c'est un verre par jour, un verre tous les deux jours, un verre tous les trois jours. Vous avez vu donc les variabilités. Et donc, cette abstinence est donc recommandée à tout le moment de la grossesse. Et comme on l'a vu, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter. Quoique parfois, ça peut être ennuyeux, mais il faut quand même s'arrêter. La prévention doit s'attacher aussi au phénomène plus récent, hein, celui des alcoolisations aiguës. Hein. On reprend parfois ce terme anglais de binge drinking, hein, dont souvent hein, des personnes jeunes vont s'alcooliser jusqu'au coma. Et parfois, certaines jeunes filles ne savent même pas qu'elles sont enceintes hein, et vont s'alcooliser de cette manière. Ces consommations rapides et massives sont souvent mal détectées, mais s'avèrent dangereuses en raison de le pic de concentration de l'alcool dans le sang maternel et fœtal. Ces nouveaux modes d'alcoolisation des jeunes femmes soulèvent donc, bien sûr, de nouvelles questions. Et la meilleure façon d'aider l'enfant est d'abord, bien sûr, d'aider la mère, de l'informer, de l'aider, de l'accompagner, voilà, sans la culpabiliser. Alors les évidences à rappeler, je dirais qu'on est censé tous connaître ça, mais on ne le sait pas forcément. Hein, donc vous avez des pliants qui vous expliquent tout ceci sur la table. Hein, vous verrez en sortant hein, ce que peuvent donner les différentes quantités d'alcool. Alors les modalités de sevrage chez la femme enceinte. Hein, le sevrage chez la femme enceinte présentant une dépendance à l'alcool doit être accompagné, bien sûr, médicalement. L'utilisation de protocoles est indispensable. On va utiliser un certain nombre de médicaments, d'autres pas. L'accompagnement des femmes en difficulté avec l'alcool au cours de la grossesse, eh bien, en cas d'impossibilité à s'inscrire dans une démarche d'abstinence, il doit être proposé aux femmes enceintes de bénéficier au moins d'un accompagnement médico-psychosocial, les aidant à limiter au moins cette prise d'alcool. Il est nécessaire, bien sûr, de faciliter l'accès aux soins, et pourquoi pas vous faire des visites à domicile. Un accompagnement pluridisciplinaire doit être recherché lorsqu'il est possible, hein, en s'appuyant sur toutes les structures existantes et les réseaux également présents. Et cet accompagnement concerne la mère, l'enfant, mais également, bien sûr, tout l'entourage, le père, la famille, etc. Alors, quand on parle de ces problèmes-là, de quelle place parle-t-on ? Celle d'un soignant, consommateur d'alcool ou abstinent ? Hein, nous-mêmes, quels sont nos rapports avec l'alcool hein, et quel message on a envie de passer? Quelle est la juste distance pour nous-mêmes, ici? Un soignant avec une spécificité de fonction connue de son interlocutrice, par exemple, obstétricien, généraliste, sage-femme, infirmier, pédiatre, psychiatre, alcoologue, psychologue, accompagnant psychosocial, bénévole d'une association, etc. Donc tous ont leur part de spécificité et leur rôle dans ce travail. Avec qui parle-t-on ? Une femme consultant pour une grossesse, souvent inquiète, ou bien avec une histoire plus ou moins longue avec l'alcool, parfois des antécédents traumatiques importants, ou bien avec des grossesses antérieures ayant parfois conduit à des séparations, ou bien suivie ou non déjà pour des conduites addictives, ou bien enfin, une femme subissant parfois des pressions de son entourage. Alors pourquoi en parler ? Bien sûr, pour informer et prévenir si possible, proposer si nécessaire une prise en charge adaptée selon les risques qu'elle encourt, que l'enfant encourt, son histoire personnelle, sa situation sociale affective. Et pour cela, bien sûr, la grossesse est aussi un moment privilégié qui mobilise des ressources parfois insoupçonnées. Et très souvent, donc, nous avons vu des femmes arrêter complètement de boire pendant cette période. Alors, comment en parler ? Bien sûr, en les écoutant le mieux possible, en évitant les contre-attitudes, c'est-à-dire les jugements, les rejets, etc. En proposant une aide acceptable possible, la plus adaptée, bien sûr, à la situation de la femme. En prenant le temps de la rencontre, hein, en passant son temps à discuter longuement aussi sur cette grossesse en général, bien évidemment. En conclusion, quelques réflexions. L'alcool est bien sûr, de très loin, le premier agent tératogène de l'espèce humaine et la première cause exogène de handicap mental. Si ceci est une évidence pour nous, elle ne l'est probablement pas encore pour tout le monde. C'est un toxique puissant tout au long de la grossesse. Une seule exposition suffit pour provoquer des désordres irréversibles, notamment à certaines périodes. En l'absence de données certaines, une abstinence complète doit être recommandée dès le début de la grossesse. Et en particulier au début de la grossesse, je pourrais même rajouter. Il est nécessaire de repérer, d'aider et accompagner ces femmes enceintes qui s'alcoolisent, quel que soit l'avancement de la grossesse. Leur possibilité ou non de s'inscrire dans une démarche d'abstinence est à comprendre. Alors, comme on le voit ici, deux belles statues de l'île de Pâques, un peu modifiée peut-être, hein, la restitution du couple éternel, de la femme enceinte qui regarde vers le large et qui, j'espère, sera une femme heureuse, hein, avec son enfant pour le temps, pour les temps immémoriaux, hein, puisque hein, j'espère que longtemps encore, les femmes vont pouvoir accoucher de beaux enfants. Merci beaucoup. Alors, maintenant, après nos deux exposés, on est très heureux d'écouter notre sage-femme de ce soir, hein, qui va nous faire quelques réflexions, elle peut être plus liée à sa pratique.
Bonsoir, j'ai pas préparé de topo du tout, j'ai pas de PowerPoint. En fait, je peux juste témoigner peut-être de la difficulté de mettre tout ça en pratique dans ma vie professionnelle de tous les jours. Donc je suis sage-femme de prévention maternelle et infantile, mais en fait, ça fait quelques années que je travaille. J'ai travaillé 10 ans au niveau des consultations de grossesse à l'hôpital à Poitiers. Et donc à ouvrir les dossiers et poser des questions une douzaine de fois par jour à des femmes, à des nouvelles patientes. Est-ce que vous consommez de l'alcool ? Et donc prendre du temps pour l'entretien, c'est vrai que ça c'est déjà une chose qui pose un souci quand on a un temps limité. C'est vrai que c'est en pratique pas si facile que ça. Et je m'étais dit qu'en allant travailler en prévention maternelle infantile, ce serait peut-être plus facile de l'aborder que sans ce pyjama aussi, quand on est en uniforme à l'hôpital, derrière la table, officielle, dans un lieu. L'hôpital, c'est pas forcément un endroit très chaleureux pour le commun des mortels. Voire des fois plutôt un endroit qui est lié à des souvenirs plutôt douloureux. Et donc maintenant je travaille dans le nord du département et je fais dans mon activité principalement des visites à domicile que je propose en fait à toute femme enceinte et plus spécifiquement quand sur la déclaration de grossesse il y a des éléments du style des soucis d'emploi, un âge un petit peu avancé ou un petit peu jeune, une séparation dans le couple, enfin, il y a quelques éléments comme ça, et donc je propose des visites à la maison. Et je m'étais dit que ça allait être peut-être un petit peu plus simple, et en fait je me suis aperçue que, pas vraiment en fait. C'est-à-dire que même avec cet entretien prénatal du quatrième mois, effectivement, il m'est arrivé d'avoir des patientes qui me racontaient des histoires assez du type roman du 19e siècle, avec le père qui était décédé dans l'enfance d'alcoolisme, la mère qui est alcoolique aussi, a eu des hommes qui se sont succédés dans l'alcool toujours, avec des beaux-pères, enfin bon, des histoires assez terribles. Et cette jeune fille qui raconte cette histoire-là, et qui lors de son entretien à l'hôpital, à sa consultation, a dit à ma collègue que pour fêter les deux ans de sa fille, étant enceinte, elle avait bu 7 verres de vodka. Donc c'était aussi elle, c'est pour cette raison-là que j'avais été la voir à la maison. Donc bien entendu, dans l'entretien, l'alcool, il était tellement là que je l'ai laissé s'exprimer. Et je n'ai pas parlé du syndrome d'alcoolisation fœtale, des risques liés à l'alcool. J'ai donné d'autres rendez-vous et avec cette jeune fille, on a établi une relation de confiance. Je la revois régulièrement et petit à petit, j'amène toutes ces informations-là sans rompre le lien. Parce que le souci aussi, à mon avis, de l'alcoolisation, c'est que de l'alcool avec la grossesse, d'ailleurs même sans que ce soit une alcoolique réellement. Le souci, c'est qu'il y a une telle culpabilisation aussi qu'il y a un risque aussi de rupture de soins. Je crois que vous l'avez abordé aussi, hein, où en fait les femmes ne vont plus se faire suivre par crainte Alors la plus grande crainte, bien entendu, elle est commune à toutes les femmes, d'ailleurs, quel que soit le niveau social, et le problème que chaque femme peut avoir, c'est le fait qu'on vienne retirer l'enfant. Et alors moi, avec mon étiquette de PMI, en général, c'est plutôt l'étiquette qui est brandie d'office. Donc il y a certaines portes que j'arrive pas très facilement à passer. Voilà. J'aurai d'autres exemples aussi, certainement, à vous dire. Dans mon expérience, il m'est arrivé de voir dans la région parisienne une femme accouchée à 6h du matin avec 4 grammes d'alcoolémie dans le sang, pour donner un exemple. Donc c'est un problème qui est assez ancien. Et effectivement, avec les années, il y a eu une prise en compte, une sorte de dans le discours et dans la recherche, bien entendu, on va tous dans le même sens et on a tous le même message à l'heure actuelle. Parce que ça, c'est aussi un gros souci, c'est que les jeunes filles, quand on leur dit que l'alcool, c'est mauvais pour leur grossesse, elles se tournent vers leur mère en disant « Moi et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'étais enceinte ?» Et on ressort ce qu'on a vu sur la présentation de M. Chavagnat. « Mais non, mais t'inquiète pas, ma fille, il n'y a aucun souci. J'ai bu quand j'étais enceinte de toi, t'as qu'à voir, il n'y a pas de problème. » Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas facile d'arriver à faire passer ce message-là.
Eh bien, merci beaucoup, hein, c'est du vécu direct, voilà, du quotidien, voilà, c'est... tout à fait passionnant. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez quelques questions et remarques sur tout ce qu'on vous a dit ce soir.
Le problème peut-être entre le fait qu'il y a le risque pour l'enfant, mais en même temps l'alcool, si la personne consomme, c'est bien que quelque part ça lui apporte...
Oui, on s'aperçoit bien qu'effectivement, il faudrait pouvoir amener beaucoup plus qu'un suivi médical ou qu'une écoute attentive et chaleureuse. Il faudrait aussi pouvoir lui fournir un logement, lui fournir un travail, lui fournir... bien souvent, c'est les populations que je rencontre, moi. Je ne dis pas que c'est que dans ces populations-là qu'on rencontre des problèmes avec l'alcool, mais c'est vrai qu'il y a tout un environnement qui fait que l'alcool c'est devenu une solution.
Ceci étant, il y a le problème de l'enjeu, parce que moi je vois, je suis aussi, enfin, pratiquement toutes les femmes qui sont toxicomanes, substituées ou non substituées, enceintes, et l'enjeu de la grossesse fait que même si les difficultés, elles sont présentes, puisque généralement, c'est pour cette raison hein, que les gens prennent des toxiques ou prennent de l'alcool. L'enjeu de la grossesse, c'est quand même quelque chose de fondamental. Parce que moi, j'étais très surpris. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine. Et maintenant, même sur des toxicomanies, l'héroïne, la cocaïne, avec des choses qui sont censées donner des dépendances très importantes... encore que je ne suis pas sûr que ces dépendances soient plus importantes d'ailleurs que le tabac ou l'alcool. Mais on voit beaucoup, beaucoup de femmes qui arrivent à arrêter. C'est vrai que les problèmes, ils existent. Il ne faut pas les nier. Mais d'un autre côté, on est dans une urgence puisqu'on est pendant la grossesse. Il faut bien quand même tenir compte à la fois des problèmes, mais il faut tenir compte du fait qu'il faut essayer dans la mesure du possible, hein, tout en tenant compte du fait qu'il ne faut pas brusquer les gens, il faut établir une relation de confiance, il faut maintenir le lien, mais il faut essayer quand même d'arrêter, parce que les conséquences, elles sont quand même sérieuses, quoi. Oui, c'est-à-dire que l'allaitement, c'est moins net, parce que c'est certain que le problème de la grossesse, c'est que vous allez avoir des dysmorphies, des lésions qui sont constituées, des anomalies, hein, comme je l'ai dit, des malformations. Et on se retrouve quand même dans une situation où une grande partie de ces problèmes sont irréversibles. hein, pour les formes les plus sévères. Alors après, c'est vrai qu'après la grossesse, bon, il y a des passages dans le lait, il y a des, mais l'enjeu est quand même pas le même. Si vous voulez, c'est pas de même nature. Hein, même si, bon, il faut vraiment insister pour éviter que les, on l'a vu tout à l'heure, là, on préconisait, il y a pas si longtemps, moi quand j'ai débuté, je préconisais aussi la bière pour, c'est pour dire que c'est pas, ouais. Mais c'est quand même pas de même nature.
Alors, c'est plutôt d'une autre nature, et c'est plutôt d'une nature, hein, je dirais, relationnelle et interactionnelle entre l'enfant et sa mère. Voilà. Hein. Donc là, c'est plutôt le psychiatre qui parle, là, le psychiatre d'enfant, et celui qui s'occupe de l'ITMR bébé dans ces problèmes-là, dans ces problématiques-là, à savoir qu'une mère qui va continuer à consommer de l'alcool alors qu'elle est en train d'allaiter son enfant, enfin... ça veut dire qu'elle n'est certainement pas très bien. Donc les problèmes relationnels avec son enfant sont certainement... Enfin les interactions avec son enfant sont certainement complexes et peut-être aussi pathologiques du fait de la pathologie de la mère, je dirais, et pas forcément directement du produit alcool. Hein, on vous a répondu sur le produit alcool, hein, mais là, moi, je vous répondrai sur les difficultés interactives. Hein. Et les difficultés interactives peuvent entraîner de graves troubles ensuite, hein, du développement de l'enfant, bien évidemment.
Vous voulez dire que...
Non, mais je parlais d'une consommation occasionnelle. Quoi.
Ah oui, non, je crois que... Non, là c'est différent. C'est-à-dire que là, après la grossesse, s'il y a un allaitement et qu'une femme, bon, un soir, il y a une fête, et elle boit 3 ou 4 verres d'alcool. Très franchement, ça n'a pas des conséquences. Alors, il faut faire attention au discours qu'on tient. Il faut qu'on soit très, très cohérent. Hein, moi, j'insiste sur le fait que, sauf s'il y a des professionnels, ou même si les gens ne sont pas des professionnels, pendant la grossesse, c'est vraiment zéro alcool. Il ne faut pas commencer à se dire « Oui, mais bon, finalement, effectivement, il n'y a pas vraiment... » Non, c'est zéro alcool. Et après la grossesse, bon, si la femme allaite et puis que de temps en temps, elle boit un verre d'alcool, il ne faut quand même pas... On n'est pas dans un couvent. Hein. Alors c'est pas, je veux dire, on n'est pas dans un couvent dans le sens où, en même temps, ça n'aura pas des conséquences très 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 délétères, hein. Ni délétères d'ailleurs.
Oui, mademoiselle. Alors ça, c'est fondamental, hein, si vous donnez de l'eau à notre moulin, hein, puisque l'important, c'est justement qu'on vous aide à savoir comment poser les questions centrées sur l'alcool. Voilà, ça, c'est clair. Parce que ça, c'est pas si évident que ça. Voilà. Puisqu'ensuite, quand on vous dit quelque chose, qu'est-ce qu'on en fait de ce quelque chose et de cette première réponse. Alors, on peut très bien aussi avoir, une attitude un peu donc, de recherche de la vérité. Mais vous avez vu que ce n'était pas le bon plan. Hein. Ce n'était pas de savoir combien elle prenait ou pas. Ce n'est pas de rechercher combien elle a bu ou non de verre. Donc, vous avez vu, il y a des questions plus indirectes, hein, qu'on propose, hein, mais pas des questions directes sur combien vous en prenez, etc. Parce que de toute façon, vous ne le saurez jamais. Rarement, en tout cas. Enfin, pas fréquemment. Enfin, voilà. Ou alors, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui prend une fois de temps en temps, et ce qui arrive aussi, hein, bien sûr. Mais celles-ci, elles vont s'arrêter très, très facilement. Et ça ne va poser aucun problème. mais celles qui ont des soucis avec l'alcool, c'est là où ça sera plus compliqué. Et là, vous avez un rôle fondamental, puisque c'est souvent vous qui les voyez. C'est pour ça que Michel Berthier et moi, nous insistons beaucoup sur ces sujets-là avec vous.
Je dirais que c'est fondamental, cette histoire de relation, parce que, et c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que c'est vrai que les femmes en parlent vraiment difficilement, l'histoire de la honte, de la culpabilité, c'est quelque chose qui est très très marqué sous l'alcool. Et moi, je vois, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'héroïne et de la cocaïne ou du Subutex ou de la méthadone. Quand j'ai des femmes en consultation, à partir du moment où je sais, puisqu'elles viennent pour cette raison, donc qu'elles prennent ces produits, il n'y a aucun problème pour qu'elles me disent ben, « je prenais 1 ou 2 grammes » ou de temps en temps « je fais un écart, même pendant la grossesse, ça m'arrive de prendre un shoot d'héroïne, etc. Bon. » Mais ça pose aucun problème. Et à l'inverse, pour l'alcool, ça pose un vrai problème. C'est autant l'alcool, vraiment, il y a une culpabilité qui fait que c'est très difficile de savoir. Souvent, moi, je vois essentiellement, donc on m'adresse en consultation des femmes qui ont des alcoolismes déjà assez sévères. C'est très difficile. Alors, bon, moi, j'insiste surtout, effectivement, sur la relation de confiance établie en insistant sur le fait qu'il faut soit diminuer, soit éviter, etc. Mais c'est très difficile de savoir. Et je crois qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas trop insister. Ça ne sert pas grand-chose de savoir qu'il y a un verre ou deux de plus. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on sait qu'il y a un problème, c'est vraiment établir une excellente relation de manière à pouvoir engager un processus thérapeutique, puis si possible, arriver à arrêter, si possible. C'est compliqué.
Et il y a une autre très grande difficulté, à mon avis, aussi en tant que professionnel, surtout quand on débute dans la profession, puis même quand on continue, je peux témoigner, c'est que c'est très difficile aussi on dit qu'il ne faut pas porter de jugement. C'est bien beau de le dire, mais c'est vrai que quand on a face à soi une femme qui reconnaît qu'elle s'alcoolise et qu'elle met en danger son bébé, c'est difficile de ne pas réagir et de ne pas rentrer dans un jugement et du coup on ferme la relation. Donc parce que c'est vrai que ça nous bouscule beaucoup aussi dans notre présentation. Une femme qui sait très bien qu'elle fait du mal à son bébé et qu'il fait quand même, c'est monstrueux quand on y pense. Et en fait, ben, comme toute addiction, il y a cette part qui pousse à faire du mal en sachant qu'elles font du mal. Et en plus, à un bébé. Et ce poids-là, je pense que dans la relation du professionnel, quand on débute, je pense que c'est une grosse difficulté pour justement savoir comment poursuivre l'entretien, comment tirer éventuellement les ficelles pour dire ben, si vous avez besoin d'aide, si jamais vous pouvez compter sur nous. Nous, on peut vous orienter vers vers les personnes qu'il faut.
Docteur Nathalie Papé.
C'est vraiment le registre de la honte, c'est-à-dire être sous le regard des autres et des autres qui jugent. Et c'est toute la problématique pour énoncer ces difficultés, pour aller vers les soins. Et c'est davantage donc ce registre de la honte, être sous le regard d'un autre, plutôt que ce registre de la culpabilité qui serait un discours intérieur. Donc c'est vraiment ça la difficulté pour accompagner les femmes, pour accompagner aussi les hommes en difficulté avec l'alcool et les amener progressivement vers les soins ou vers les associations.
Oui, moi je rajouterais peut-être que la différence avec la toxicomanie, au niveau de l'alcool, ça renvoie à l'image, fin 19e siècle, début du 20e siècle, la femme qui boit, c'est la femme de mauvaise vie, c'est la prostituée, c'est la péripatéticienne, c'est qui, donc, elle va transgresser l'image de la mère, et donc, en fait, c'est vraiment derrière, c'est la représentation qu'il y a derrière, en fait. Voilà, c'est, je pense que ça ne renvoie pas du tout aux mêmes représentations, la femme alcoolique et la femme toxicomane. Voilà.
Je pense que c'est une des raisons, entre autres, pour laquelle l'alcoolisme au féminin, d'ailleurs pas uniquement pendant la maternité, c'est la femme, elle boit toute seule chez elle, hein, c'est pas au café.
D'ailleurs, quand on a les mixtes, ce qui est fréquent d'ailleurs, quand on voit des jeunes femmes qui ont des problèmes de toxicomanie, qui prennent de l'alcool, et souvent d'ailleurs des quantités importantes, et ben, autant c'est facile, hein, de parler effectivement de l'héroïne, autant l'alcool c'est plus difficile. C'est effectivement, il y a vraiment quelque chose, et il y a même. Je vais même aller plus loin. Pour certaines jeunes femmes, le fait de prendre de l'héroïne, d'avoir, y a une petite provocation, c'est un côté même un peu valorisant, elles en jouent un petit peu, alors que jamais j'ai vu ça avec l'alcool. L'alcool, c'est vraiment la tête basse, alors que l'héroïne, la cocaïne ou même le shit, c'est quelque chose qu'on peut revendiquer, mais pas l'alcool. Enfin, pour une femme, hein. Pour un homme, c'est différent. C'est incontestable. Je vois par exemple les ados. On a beaucoup d'ados qui viennent maintenant. D'ailleurs, on l'a quantifié. On a une augmentation aux urgences, hein, des adolescents qui viennent s'alcooliser. Eh bien, non, on est très embêtés parce qu'on ne leur donne plus le taux d'alcool. Parce qu'ils sont fiers d'avoir leur taux. Et après, ils font des concours. Et donc, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ceux qui sont chroniques, ils ont honte d'être chroniques. Mais ceux qui s'alcoolisent de manière aiguë, il y a une sorte de fierté d'être arrivé aux urgences complètement comateux et tout, et ça nous pose un vrai problème. On ne sait pas trop comment aborder cette affaire. Déjà, bon, on a renoncé totalement à donner le taux, hein, parce qu'il y a cette compétition complètement absurde, hein, mais effectivement ça ne renvoie pas à la honte, hein. Ils sont emmerdés quand les parents arrivent, c'est sûr, hein, mais c'est pas une véritable, vis-à-vis des copains ils n'ont pas honte, alors que celui qui est déjà un peu plus âgé et qui est pris dans l'alcool quotidiennement, celui-là, c'est différent. Et a fortiori, si c'est une femme. C'est pas la même chose. Enfin, c'est ce que je vois.
C'est la difficulté de la prévention.
Oui, tout à fait.
Parce qu'actuellement, la prévention au niveau des jeunes filles, justement, qui sont dans la consommation de cet alcool-là, et puis comment, à ce moment-là, elles ne sont pas du tout dans des projets de grossesse, hein, même si ça peut arriver. D'alcool zéro à ce moment-là, vous voyez, pour plus tard, c'est quelque chose.
Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pas... Alors c'est pour ça que c'est quand même très important lorsque on peut faire un message de prévention, de préciser à ce moment-là que pendant la grossesse, c'est quand même quelque chose d'autre. Et parfois... Parce que même ces jeunes filles qui peuvent avoir des moments d'alcoolisation aiguë importante peuvent éventuellement changer. Certaines, en tout cas, peuvent éventuellement changer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon discours optimiste, hein, parce que j'en ai vu qui, en effet, même en ayant bu beaucoup à certains moments, arrivent à ne plus boire du tout pendant la grossesse. Mais il faut aussi leur expliquer pourquoi et jouer aussi sur l'importance, hein, de ce que représente la grossesse à leurs yeux. Et lorsque la grossesse est très valorisée, c'est quand même quelque chose qui est un bon allié pour nous. Sauf si, bien sûr, cette jeune femme, ou moins jeune femme d'ailleurs, enfin cette dame, cette femme, a aussi des difficultés psychologiques liées plus ou moins à sa vie antérieure. Si, bien sûr. Hein. Voilà. Il ne faut pas être non plus angélique. Il ne faut pas prendre mon discours comme ça et tout d'un coup, l'enfant paraît et l'alcool disparaît. Non, c'est pas ce que je dis. Oui.
Il y a intérêt d'en parler aussi aux jeunes hommes.
Alors, Il est important aussi d'en parler à l'entourage, et en particulier, bien sûr, au conjoint, hein, pour qu'il soit, je dirais, celui qui accompagne et qui encourage hein, sa compagne à ne plus consommer. Et peut-être que lui aussi peut diminuer sa propre consommation. Hein, c'est, voilà. Et puis, quand on est enceinte, on peut avoir une bonne raison aussi. Voilà, socialement accepté, c'est socialement accepté de peut-être ne pas boire. Voilà. Là, c'est plus facile de dire non aussi. Mais il faut aussi avoir certaines informations, bien sûr, là-dessus. Hein. Et les informations qu'on vous a données sont, je dirais, assez banales, mais cette banalité n'est pas encore bien partagée par l'ensemble de nos concitoyens. Voilà. Donc, quelque part, c'est très bien que vous soyez là et vous allez être, pour nous, les gens qui allaient diffuser la bonne parole, hein, expliquer aux autres ce qui se passe, quand même. Voilà, et ça, je crois que c'est important. Allez-y.
Est-ce qu'on peut dire à une patiente enceinte que c'est le meilleur moment pour arrêter le traitement, que ce sera le meilleur soutien ?
Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais en tout cas, c'est un moment privilégié. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, parce que le meilleur moment, c'est un petit peu plus compliqué, puis c'est peut-être autre chose. Mais c'est certainement un moment particulier sur lequel elle peut s'appuyer. Voilà. Alors, ça peut ne rien régler des problèmes de fond, hein, mais elle peut peut-être, en se raccrochant à ça, diminuer largement ou peut-être même arrêter. Je vous assure, ce ne sont pas des histoires. J'ai vu, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes, donc on s'en rappelle. Hein, certaines femmes qui étaient vraiment des femmes dépendantes et qui, pendant leur grossesse, ont réussi à diminuer vraiment beaucoup leur consommation, voire même ont pu s'arrêter un ou deux mois, hein, ou trois mois. Hein, voilà, hein, ça, c'est clair. Et ensuite, après avoir accouché, reprennent. Hein, voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, il y a l'avant et l'après, et c'est entre deux particuliers, il peut se passer des choses, ça c'est sûr. Alors il peut y avoir aussi continuation des prises d'alcool, il ne faut pas être angélique, hein, bien sûr. Hein, mais quand même, je veux dire, bon, les choses peuvent aussi se modifier. Mais à condition de pouvoir parler de cette problématique aussi simplement que le reste. Je veux dire, si nous-mêmes, nous sommes assez à l'aise pour pouvoir en parler, ça passera assez bien. Hein. Mais aussi avec nos amis. Enfin, je veux dire, bon, là, il n'y a pas que les professionnels qui parlent de ces problèmes-là. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Mademoiselle ? Alors le stress n'a jamais entraîné des malformations, hein, ça c'est sûr, hein, ni des troubles majeurs. À ce moment-là, on est dans un autre registre. Hein, on est à ce moment-là dans un registre plus psychologique, si vous voulez, et qu'on peut prendre en charge. Voilà. Hein.
Est-ce qu'elles sont accompagnées ? C'est sûr que quelqu'un qui prend vraiment beaucoup d'alcool, s'arrêter comme ça brutalement, peut se retrouver... C'est comme, par exemple, les syndromes de manque qu'on voit avec les toxicomanes. Les femmes toxicomanes, elles veulent arrêter aussi. Et c'est la catastrophe, parce qu'elles se retrouvent... Alors, si elles ne sont pas accompagnées, hein, ou si elles ne sont pas substituées, ou si elles sont... C'est la même chose. Mais là, en l'occurrence, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si elles essaient d'arrêter toutes seules, elles peuvent se retrouver en grande difficulté. Et donc, c'est tout l'intérêt, finalement, d'être accompagné, d'avoir, en particulier avec un accompagnement psychologique, psychiatrique, hein, puis éventuellement même médicamenteux, pourquoi pas. Hein,
parce qu'on peut donner des médicaments, voilà. Ça c'est clair, qui, eux, ne sont pas tératogènes, qui, eux, ne vont pas provoquer des troubles chez l'enfant.
Et c'est vrai que quand on... Moi, je vois, je pense à une jeune femme qui prenait, je ne sais pas, 6 ou 7 litres de vin par jour, et arrêter d'un seul coup, elle a arrêté d'ailleurs en début de grossesse, je crois que tu vois de qui je parle, et pendant quelques temps, et puis elle a repris, et puis d'ailleurs ça s'est très mal fini. Oui.
Il me semble que c'était le discours, hein, qui était tenu par rapport à la cigarette et les femmes qui fumaient, où on leur disait au moins diminuer notre consommation, donc je comprenais ce que disait la femme.
Oui, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que diminuer, c'est toujours mieux que rien du tout. je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, la différence aussi, c'est que le problème avec l'alcool, ça n'existe pas avec la cigarette. En fait, on est fumeur ou on n'est pas fumeur. Avec l'alcool, on n'est pas forcément alcoolo-dépendant. Donc il y a un rapport à l'alcool qui est différent, et donc la prise en charge effectivement est totalement différente. Et c'est vrai qu'une femme qui est alcoolo-dépendante avec une consommation, comme vous dites, pour l'arrêt, je suppose que même une hospitalisation, ça peut être envisagé.
Et ça c'est un point très très important, parce que c'est vrai que les gens qui fument, ils fument tout le temps. Et c'est exceptionnel que des gens fument comme ça un petit coup de temps en temps. En fait, ils fument régulièrement, ils sont dépendants. Et on voit des quantités de gens, de femmes en particulier, ou d'hommes, qui boivent sans avoir de problème avec l'alcool. Et c'est vraiment dommage. Moi, je vois la maternité, quand elles apprennent à 5 ou 6 mois, parce que c'est pas si répandu que ça, qu'en fait, il n'aurait pas fallu boire du tout. Elles disent, on me l'aurait dit, ben, je n'aurais pas bu du tout. Effectivement, pour faire des arrêts brutalement. Et donc, il y a énormément de gens. Je pense que parmi vous, il y a très peu de gens qui n'ont pas bu d'alcool. Et c'est pas pour ça que vous êtes dépendant. Ce qui n'est pas la même chose que le tabac. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Et là, il y a vraiment... Alors, c'est un autre registre que les gens alcoolodépendants. Mais là, il y a vraiment un discours qu'il faut faire passer, de dire aux gens, écoutez, la grossesse... Ça s'accompagne d'une absence de prise d'alcool. Parce qu'il y a les prises aussi qui sont modérées. On peut très bien ne pas avoir problème avec l'alcool. Et puis un soir, dans un repas, boire 5 ou 6 verres. Un jour comme ça, pendant la grossesse. Ce qui peut entraîner sur une seule prise de 5 ou 6 verres des complications chez le fœtus, c'est vraiment dommage. Quoi. Vous voyez, c'est vraiment deux domaines qui sont différents. C'est les gens qui sont dépendants ou ces gens qui boivent comme ça sans que ce soit pathologique et qui doivent être informés. Donc l'information, c'est fondamental.
Ce qui serait même intéressant, je pense, à dire, c'est que quand on arrête sa contraception et qu'on envisage une grossesse, c'est à ce moment-là qu'il faudra arrêter, en fait, avant même de savoir qu'on est enceinte. Parce que bien souvent, quand on apprend que sa grossesse, c'est avec le retard de règles, et à ce moment-là, la grossesse a déjà, la plupart du temps, un mois et demi. Donc, voilà.
Bien. Oui, madame.
Oui, dès l'embryologie, oui. Donc
dès le début du développement. Il peut même y avoir des fonctions de précoce. On le voit, on fait des expériences chez l'animal. Bon, si des prises d'alcool importantes précocement vont interrompre la grossesse, par exemple. Oui. C'est pour dire que ça a des effets quand même.
L'alcool, c'est très puissant. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est un toxique très, très puissant. Beaucoup plus, par exemple, que les opiacés. On peut faire une grossesse sous opiacés sans problème, alors qu'une grossesse sous alcool, non.
Ça, c'est un sacré paradoxe. C'est quand on dit aux jeunes femmes que, bon, de temps en temps, si elles prennent de l'héroïne, celles qui sont dépendantes et puis qui prennent du Subutex, c'est pas dramatique. Mais par contre, une cuite, ça, c'est dramatique. Surtout que c'est des cuites, elles les prennent généralement avec une bouteille d'alcool blanc.
Elles vont toutes repartir avec des opiacés.
Et c'est vrai que c'est un discours qui est très difficile à faire passer. Il faut vraiment expliquer, hein, parce qu'elles ont le sentiment, quand elles ont pris 2-3 shoots d'héroïne, que c'est une catastrophe. Elles viennent, elles sont effondrées. Et puis, à l'inverse, elles ont pris 2 cuites en buvant une bouteille de vodka. Et là, ça ne les affole pas.
Alors que c'est l'inverse, mademoiselle.
Je voulais juste savoir si un enfant pouvait naître en étant dépendant, en ayant des phénomènes de manque.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est incontestable. Bon, avec de l'alcool, moi, j'ai des souvenirs d'enfants, un petit... je ne peux même pas citer son prénom, et qui est né avec 4 grammes et qu'on a eu toutes les peines du monde à sevrer. Hein, c'était... Ah bon, on a des sevrages médicamenteux, on peut prendre des sevrages médicamenteux, on peut utiliser aussi bien, comme on l'utilise pour d'autres, on peut utiliser du chlorhydrate de morphine, on peut utiliser des produits
Comme les enfants qui naissent de mères toxicomanes, c'est la même chose. Ils ont un sevrage de plusieurs jours, plusieurs semaines. Et pour l'école, c'est pareil. Ça, on sait faire. Enfin, c'est embêtant quand même.
Il y a des protocoles, c'est 0,5 mg 4 fois par jour, puis on monte les doses. Enfin, c'est...
D'autres remarques ? Est-ce qu'on a satisfait votre curiosité ? Est-ce que vous êtes convaincu ?
Je pense que vous seriez aidé aussi si vous étiez plus relié par les médias. Parce que vous avez dit que c'était une journée particulière liée à ce thème. C'est parce que vous l'avez dit, que c'était une grande fiche d'eau. Mais ce n'est pas médiatisé du tout. J'en ai entendu effectivement il y a plusieurs années de ce fameux verre qu'il ne fallait même pas boire. Mais depuis, ça a été validé.
Alors c'est vrai qu'au niveau des grands médias, c'est quand même très absent. Et ça, c'est sûr. Et cette journée, par exemple, qui est une journée donc internationale du syndrome d'alcoolisation fœtale, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une publicité énorme. Alors, il y a eu quand même un petit peu de publicité dans cette à Poitiers. Vous avez et il y a eu un petit peu dans les journaux un petit encart tout petit. Voilà, quand même, ils ont relayé un peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a que les gens qui sont un petit peu motivés, qui sont venus ce soir.
Moi, je pense que bon, il y a effectivement, il y a moins d'informations, mais s'il y avait sur les bouteilles d'alcool, s'il y avait comme sur les paquets de cigarettes, avec le logo de la femme enceinte suffisamment gros, ce serait suffisant. Et en même temps, c'est absurde de ne pas le faire parce que ça changerait pratiquement pas les ventes d'alcool. Parce qu'on peut très bien boire de l'alcool avant la grossesse, après la grossesse, et pas pendant la grossesse. Et ils ont trouvé le moyen de foutre leur logo qui font quelques millimètres.
Regardez les bouteilles, regardez. Vous arrivez.
Non, mais regardez les bouteilles, vous rentrez chez vous. Moi, j'ai regardé avant de partir. J'avais envie d'en amener une, puis je me suis dit, c'est pas la peine, on verra pas.
Non, tu ne le verras pas.
Et donc, il aurait fallu la faire passer, puis elle serait revenue vide.
Alors, on peut mettre aussi les photos des enfants avec un syndrome d'alcoolisation fœtale sur les bouteilles.
Oui, parce que c'est vrai que quand vous regardez sur les paquets de cigarettes, c'est vraiment, c'est hard. Enfin, moi, je ne suis pas fumeur, mais je vois des fois des paquets de cigarettes, je me dis, je serais fumeur. Waouh! Et sur les bouteilles d'alcool, c'est vraiment planqué.
Et est-ce qu'à l'étranger, c'est plus visible ou le message est mieux divulgué ou est-ce que c'est spécifique à la France ?
Écoutez, je ne crois pas. En Europe,
je
ne crois
pas.
Je ne peux pas
répondre.
Aux États-Unis.
Au Canada.
Alors au Canada, il y a plus, il y a mieux ?
Oui.
Et sur les bouteilles d'alcool, il y a.
Il y a des sites.
Il y a moins de vignes au Canada.
Il y a des sites d'information et il y a un numéro d'appel anonyme et gratuit en fait au Canada pour les problèmes d'alcoolisation. Et en France, j'ai l'impression que ça commence à se développer quand même aussi pas mal. Les sites, les associations, les réseaux aussi. Il y a beaucoup de réseaux qui se développent.
La loi, elle date de 2004. 2004. Et donc ça fait 8 ans. Quand on regarde sur les bouteilles ces petits trucs.
Alors peut-être que dans 8 ans, il aura gagné 2 mm.
Et d'autre part, donc on a beaucoup espéré sur la consultation du quatrième mois. On a beaucoup parlé. Mais quand on voit tout ce qu'on veut mettre dans cette consultation du quatrième mois...
Oui, c'est pas 3 quarts d'heure, c'est 3 jours. Hein.
Les sages-femmes, ça va être dur pour elles. On leur dit pourtant...
Non, mais
je pense qu'il y a vraiment un effort à faire sur dans ce domaine. Il y a quelque chose qui est pas encore suffisant. Moi, je crois que c'est certain.
C'est pour ça que la difficulté, c'est aussi la difficulté de pouvoir aborder cette problématique. Donc on va se faire un effort, nous, là-dessus. Et déjà, on commence cette année. Mais tous les ans, et en particulier cette période de l'année, on proposera donc à tous ceux qui veulent donc, de les aider à aborder ces problématiques d'alcool, en particulier, donc, bien sûr, avec les femmes. Et ça, c'est quand même très important. Voilà. D'autres remarques, mademoiselle ? Oui.
Quand on fait une ouverture de dossier, on pose une fois la question et après, c'est clos. La femme répond non à ce moment-là, c'est clos. On ne reposera pas la question pendant la grossesse s'il n'y a rien qui nous fait soulever la question. Et même à la fin de la grossesse, on repose la question des traitements médicamenteux qui ont été pris. On ne repose jamais la question de l'alcool qui a pu être pris pendant la grossesse. C'est posé une fois. Si la patiente répond non à ce moment-là, ce qui est souvent, je pense, la réponse réflexe, après c'est fini, enfin, on revient pas dessus.
Un petit conseil, quand vous ferez les interrogatoires, amusez-vous à trouver la façon de poser la question. C'est-à-dire, par exemple, jamais une question négative, vous buvez pas d'alcool. Hein, c'est des questions qu'on peut poser, mine de rien, avec est-ce que vous buvez de l'alcool ? C'est trop vague. Est-ce, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il vous arrive de prendre l'apéritif ? Et quand vous êtes à table, vous buvez quoi ? Ou quand vous faites la fête avec votre famille, qu'est-ce qu'on vous propose à boire ? Il y a plusieurs façons de poser la question sans jugement, sans fermeture, en fait. Et puis, essayez de le faire systématiquement, comme un jeu, en fait. Essayez de renouveler, de pas... Le fait de le poser systématiquement, vous aurez des réponses.
Et dans votre même interrogatoire, vous reposez la question autrement.
Et ça dépend, en fait, ça dépend essentiellement des personnes. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous dites les médicaments. Moi, j'ai fait un travail sur les prises médicamenteuses. Et donc, la sage-femme qui avait fait le travail avec moi et posait les questions. Alors, on disait, vous prenez des médicaments ? Non. Et après, on avait toute une série de médicaments. On disait, est-ce que vous prenez de l'aspirine ? Vous prenez de tel trip, des somnifères, des... Et dans plus de 80% des cas, quand les gens répondaient non au début, on trouvait des médicaments. Et de la même manière, donc, moi, j'ai travaillé aussi sur des mémoires ou avec des élèves sages-femmes ou des sages-femmes qui étaient intéressées. Eh bien, elles trouvent beaucoup plus de personnes qui boivent de l'alcool parce qu'elles s'y intéressent. Et donc, ça va dépendre beaucoup de la motivation de la sage-femme. Et elle trouvera effectivement la bonne manière parce qu'elle s'y intéresse, parce qu'elle aura réfléchi, parce qu'elle aura lu, parce qu'elle se sera renseignée. Ça dépend vraiment beaucoup de ça. Parce que si au début, effectivement, ça vous est raison, moi, les dossiers, je les vois régulièrement, on voit, vous prenez de la drogue ? Non. Vous prenez de l'alcool ? Non. Ah, que vous prenez des médicaments ? Non. Bon, terminé. C'est passé. Et puis après, donc, l'enfant est hospitalisé en pédiatrie. Bon, moi, ça m'intéresse. Donc, je vois les femmes, je discute, je prends du temps, etc. Et puis, je vois les choses autrement. Et dans 50-60% des cas, tant que je trouve. Et c'est... C'est là, si on s'intéresse ou si on ne s'intéresse pas. Ça, c'est...
Mademoiselle ?
Ça peut provoquer des accouchements prématurés. Et du coup, des fois, quand on ne connaît pas la cause, est-ce qu'on peut imaginer que c'est l'alcool éventuellement qui peut en être un facteur ou...
Je m'en prends. Oui, c'est-à-dire que que soit l'alcool, le tabac, que les toxiques, Tout est incriminé dans les accouchements prématurés. Alors, plus ou moins, selon... effectivement, donc ça fait partie des causes, d'ailleurs, dans les multiples causes d'accouchements prématurés. Mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup plus même sur l'hypotrophie, hein, sur le fait d'être plus petit que...
C'est le retard de croissance intra-utérin, ouais, qui est quand même un des diagnostics le plus pertinent. Hein, c'est le retard de croissance.
D'ailleurs, ça me fait juste penser à préciser, de préciser que très souvent, les femmes qui ont des problèmes avec l'alcool sont très fortement tabagiques la plupart du temps.
Est-ce qu'on a satisfait votre curiosité ? Ah, petit dernier.
Le fœtus a grandi. Et au niveau de l'adolescent, l'impact de l'alcoolisme sur l'adolescent, le cerveau a-t-il fini son développement, l'impact du problème de myélisation.
Mais c'est que ce soit l'adolescent ou l'adulte, il y a des travaux, même d'imagerie, hein, qui ont été faits, et plus les gens boivent, plus le cerveau rétrécit, en gros. Alors c'est schématique, hein, mais on voit ce qu'on appelle donc des atrophies corticales. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes d'alcoolisme, plus vous buvez, plus vous avez une atrophie du cortex cérébral. Et il y a vraiment des travaux d'imagerie extrêmement précis qui ont été publiés.
Et ceci, quel que soit l'âge.
Voilà.
Vous avez des atteintes nerveuses, alors
ça peut être à 50
connues,
ans.
Hein, au niveau des membres inférieurs, hein, les gens ils vont marcher comme ça, hein, voilà, ils sont pas bien. Et c'est pas parce qu'ils sont alcoolisés, mais parce qu'ils ont des lésions au niveau de, bien sûr, des terminaisons nerveuses. Hein. Et puis au niveau du cerveau, hein, plus vous buvez, plus votre cerveau il est détérioré, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Et ça se voit, voilà, à l'imagerie.
Hein, et ça se voit, oui, c'est objectivé maintenant. Hein. Et puis ça se voit aussi dans le comportement, etc., dans l'affaiblissement intellectuel, etc. L'alcool est un poison puissant. Hein.
Pour les retards de croissance, est-ce que ça veut dire que si par exemple à l'échographie on détecte un retard de croissance, il y a toute une batterie d'examens, nous on recherche des maladies. Est-ce que si on faisait par exemple un dosage d'alcoolémie à ce moment-là, on découvrirait des choses?
Il n'y a pas seulement l'alcoolémie. Je pense qu'il ne faut pas faire d'alcoolémie sans demander. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Puis d'ailleurs, quel que soit l'examen, il faut vraiment. Mais à l'inverse, il suffit de regarder la numération formule. Hein. Vous êtes sage-femme, vous aurez une macrocyte. Les globules rouges sont plus gros hein, quand on boit de l'alcool régulièrement, hein, parce qu'il y a un déficit en vitamine B12 et puis en acide folique. Et donc, il suffit de regarder la numération. Vous aurez la réponse. Hein. Alors, vous pouvez faire aussi des gamma GT, vous pouvez faire aussi des dosages. Mais faire des gamma GT, il faut demander la permission. La numération, vous l'avez sous les yeux.
Hein. Quand vous avez une macrocytose, il faut quand même chercher l'origine de la macrocytose. Si j'ai une femme qui a 25 ans, pourquoi elle a une macrocytose? Alors, il peut y avoir d'autres raisons. Mais quand même, là, vous l'avez dans un bilan standard. Vous n'avez rien à demander, mais vous regardez. Je veux dire, et c'est là, à ce moment-là, où vous pouvez être attiré éventuellement et peut-être reposer des questions, un peu comme on a dit.
Oui, je pense que la première chose à faire à ce moment-là, effectivement, c'est reprendre un entretien. Peut-être que par le moyen d'entretien.
Ah oui, faut reprendre. Enfin,
le moyen d'entretien, c'est le mieux.
Par le biais d'examen, c'est dangereux. Personnellement, je ne fais jamais.
Et puis il faut laisser à la femme sa dignité, je pense, pas essayer de la prendre en défaut. C'est pas quelque chose de constructif ni qui puisse amener vers quelque chose de bien. C'est elle qui décidera si elle veut faire appel, si elle veut arrêter ou pas. Ça lui appartient entièrement.
J'ai des collègues qui l'ont fait donc avec des contrôles. C'est pratiquement systématiquement, vous avez une rupture de relation. C'est que la personne ne vient plus vous voir. Donc, finalement, c'est la catastrophe. Quoi. Donc, du coup, il vaut mieux, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une relation, discuter, etc. Pas essayer de piéger les gens avec. Alors après, une fois qu'on est dans un échange et qu'il y a eu une acceptation de dire, qu'on fasse des contrôles, qu'on fasse pour voir donc quelles sont les conséquences sur le plan enzymatique, sur le plan d'accord, hein, avec l'accord toujours. Mais le faire pour dépister et puis ensuite dire « Ah hein, !» ça, c'est catastrophique. Et ça ne marche pas en plus.
Bien. Écoutez, on va vous souhaiter le bonsoir et vous remercie pour votre attention et on espère vous revoir dans ce bel établissement. Voilà. Merci.